Merci la technique. Ah, ben, je suis vraiment très 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 heureuse d'être avec vous et de pouvoir vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. Et j'ai envie de commencer par prier. Seigneur, merci pour ton Église. Merci parce que, Seigneur, tu nous aimes tels que nous sommes. Et je te prie vraiment, Seigneur, d'ouvrir les cœurs pour recevoir ce que tu veux nous, ce que tu as sur ton cœur cet après-midi. Et merci, Seigneur, parce que tu as quelque chose à dire à chacun d'entre nous, Seigneur. Alors, ouvre nos cœurs maintenant, que nos cœurs soient disposés à recevoir. Amen. C'est vraiment un plaisir, un honneur de vous partager ce que j'ai reçu pendant ces dernières semaines. Alors, je vais vous parler... merci, mon amour. Je vais vous parler d'un sujet très vaste. Je pense que ce n'est pas le premier message que je vous ferai sur ce thème-là. Pas le dernier. Pas le premier, pas le dernier. Et j'avais à cœur de vous parler de l'identité. Et c'est vraiment un message, je pense, qui s'adresse à chacun d'entre nous, quelle que soit notre marche avec Dieu, qu'on soit jeune converti, qu'on soit chrétien depuis de nombreuses années. Je pense vraiment que c'est un message qui est actuel pour nous en tant que personne, mais aussi en tant qu'Église. Et le but de mon message, c'est vraiment que vous ressortiez encouragés et boostés et renouvelés. Donc, ayez toujours ça dans tout ce que je vais partager. Sachez que c'est ça mon cœur pour vous aujourd'hui. Et pour moi, je m'inclus. Dans tout ce que je vous partage, je m'inclus évidemment. Et je crois vraiment que c'est le thème de l'identité, c'est un message crucial et fondamental pour notre vie de disciple. Alors je dis exprès le mot disciple parce qu'on est chrétien, mais on est des disciples, c'est-à-dire qu'on est appelé à suivre Jésus. Et aujourd'hui, même si chrétien et disciple, ça devrait vouloir dire la même chose, ce n'est pas toujours le cas. Et l'identité, pourquoi c'est fondamental? Parce que vous connaissez cette expression des racines et des ailes qui veut dire on a besoin de savoir qui on est pour savoir, aidez-moi, où on va, c'est ça. Et du coup, ce message-là, c'est un message que je vous partage aujourd'hui à l'Église, mais j'ai envie de dire qui est valable. Le message de la construction d'identité, c'est on est tous concernés, chrétiens ou non. On se construit toute notre vie, tout au long de notre vie. On est dans cette quête de savoir qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Et à tous les moments, les étapes de notre vie, qu'on soit enfant, adolescent, jeune adulte, même plus âgé, on n'est jamais arrivé, on est toujours en chemin. Et c'est une bonne nouvelle. C'est pas parfois, moi en tout cas, j'avais un peu l'impression que la vie chrétienne, ça pouvait être une liste de choses à régler dans ma vie, et puis pof, ça c'est bon, hop, je peux ticker et puis c'est fini, j'ai plus à m'en occuper. Non, la marche avec Dieu, c'est un renouvellement de notre personne, de notre intelligence qui est constant. C'est une marche, c'est une marche. Et ce message, en fait, il s'inscrit complètement dans la suite de ce que Brice nous a partagé la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, je vous encourage vraiment à écouter le message génial qu'il nous a fait. Il est disponible sur notre site égliseconnect.fr parce que c'était tellement inspirant et encourageant d'entendre toutes les témoignages de ces personnes qui rencontrent dans les prisons et son propre témoignage aussi, de vies qui sont transformées par l'amour de Jésus. C'est tellement beau. Et en fait, la croix, le moment de la croix dans notre vie, c'est une étape fondamentale, énorme. Mais il y a un avant et puis il y a un après. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Parce que la croix, c'est un nouveau départ. Mais souvent, on ne réalise pas entièrement tout ce que Jésus a conquérir pour nous à la croix. On se dit, je suis sauvée, donc ça veut dire, une fois que je serai mort, j'irai au ciel, je serai avec Jésus, avec Dieu. Ouais, ça c'est une vérité, c'est génial, c'est incroyable, quoi, c'est une bonne nouvelle. Mais il n'y a pas que ça, les amis. On est appelé à marcher dans une nouvelle identité parce que par la croix, Jésus a acquis une nouvelle identité pour nous. Notre identité a été restaurée. Et on est appelé à marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est dans Romains 6, verset 4. Il y a un avant et il y a un après. Quelles que soient nos circonstances, souvent on est émerveillé par les conversions, comme Brice, où des gens sortent d'une vie mais dramatique. Et c'est beau de voir comment l'œuvre de Jésus, elle s'adresse à tout le monde. Et puis il y a aussi des gens qui ont une vie un peu plus banale, qui n'ont pas été autant blessés par la vie, mais la conversion c'est aussi valable pour les personnes comme ça. Donc ne complexons pas, quel que soit notre arrière-plan. Et Paul il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » C'est pas une philosophie, ça. C'est une réalité. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une réalité que je vous invite, en tout cas en partie, à saisir parce que je vais vous partager. Il y a eu un échange à la croix. Il y a vraiment eu un échange. Il y a quelque chose qu'on est venu apporter à Jésus et on est reparti avec quelque chose d'autre. Mais parfois, on n'est pas bien conscient de ça. Et vous avez vu, Estelle nous en a parlé, c'est le printemps. Et donc, ce message, ça va être un peu un ménage de printemps où j'ai envie de balayer certaines fausses croyances dans lesquelles on a pu grandir ou qu'on peut avoir, des mensonges qu'on peut croire à propos de Dieu. Et tout ça dans le but de devenir qui on est. J'aime bien cette expression qui dit « deviens qui tu es », pas qui tu seras, qui tu es. Parce que si on a rencontré Jésus, si on lui a donné notre cœur, on est une nouvelle créature. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. C'est pas moi qui l'invente. C'est pas « on sera », c'est « on est ». Waouh. Et c'est peut-être la première fois que vous allez entendre un message de ce genre. Peut-être pas, peut-être vous baignez dedans depuis des années. Mais comme je vous disais, je vous encourage vraiment à recevoir ce que Dieu a pour vous, que ce soit la première ou la dixième fois. Parce que c'est un chemin sur lequel on marche. Et en tant que disciple de Christ, on ne peut pas faire l'impasse sur ce message. On ne peut pas dire « non, ça ne me concerne pas, moi c'est bon, je suis bien dans mes baskets ». Je crois vraiment qu'on ne peut pas passer à côté et dire « ce n'est pas pour moi ». Et je vais vous parler d'un petit exemple que j'ai vécu la semaine dernière. On ne peut pas non plus se contenter de vivre sur les révélations de quelqu'un d'autre. Je pense que tout comme moi, vous avez des personnes dans votre vie, dans votre vie, on va dire, chrétienne, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vous inspirent, qui vont, que ce soit des personnes que vous connaissez ou pas d'ailleurs, il y a des gens à qui vous regardez, qui vont vous inspirer, de qui vous allez apprendre. Et c'est super important d'être enseignable, c'est vraiment super important. Hein. Les disciples, ils apprenaient de Jésus. Et Jésus apprenait de son Père, et on est appelé à être enseignable et à apprendre les uns des autres. C'est pas une histoire de niveau, hein. On est appelé à avoir ce cœur ouvert. Et en même temps, on ne peut pas se contenter de dire, c'est bon, je suis proche d'eux ou je connais bien la théologie de telle église qui vivent dans la révélation de leur vraie identité. Donc c'est bon. On peut pas passer à côté de ça parce que on a à le vivre. Et c'est pas Je ne veux pas vous donner un message de « il faut que je dois », mais c'est juste, si on ne vit pas ça, on passe à côté de presque l'essentiel. Et là, il y a une dizaine de jours, chaque semaine, j'écoute la louange de l'église de Bethel, ils la mettent toutes les semaines à jour sur leur site, et puis depuis plusieurs semaines, l'application bug sur mon téléphone, ça ne se met pas à jour, c'est toujours la louange d'il y a un mois. Puis j'étais frustrée, tous les jours je regardais, je me disais, est-ce qu'ils vont mettre la louange en ligne et tout. Au début je pensais que c'était eux qui buguaient, puis je pense que là c'est mon application qui bug. Et puis au bout de... Donc j'étais frustrée, je disais, quand même et tout, j'ai pas eu ma louange cette semaine. Et puis j'ai vraiment senti le Saint-Esprit me reprendre et me dire, mais t'as besoin de ça pour me louer. T'as besoin de ça pour prendre un temps d'intimité avec moi. Est-ce que tu dépends de ça ? Et c'est pas que je dois jeter ça à la poubelle, plus écouter ça, que c'est pas biblique et tout. Non, 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 c'est pas ça l'idée. C'est sur quoi, de quoi dépend ma relation. Est-ce que j'ai besoin de ça pour passer un temps dans la présence de Dieu? Waouh, j'étais là, bon, ok, non, Saint-Esprit, j'ai pas besoin de ça. Même le silence est largement suffisant parce que toi, tu es là et tu me parles. Et trop souvent, je trouve que, enfin, en tout cas moi personnellement, j'ai pu admirer des personnes comme ça, que je disais « Waouh, ils ont compris ça, c'est incroyable, ils vivent vraiment le royaume de Dieu et ils vivent des signes, des miracles et wow, je veux m'en inspirer. » Mais du coup, le danger de ça, c'est que du coup, on devient passif. On attend et puis Dieu faire des choses dans la vie des autres. On dit, waouh, c'est super. Et c'est super important de se réjouir de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Mais du coup, on est dans une attitude un peu passive. Et il y a un exemple dans la Bible qui m'a marqué d'une femme qui n'est pas passive du tout. Et pourtant, elle ne connaissait pas Jésus. Enfin, pas encore. Et c'est dans Matthieu 15, verset 22-28. Je ne sais pas si je vais vous lire, mais peut-être vous raconter l'histoire. C'est la femme cananéenne qui n'était pas juive et qui interpelle Jésus. Et au début, ses disciples lui disent « Jésus, s'il te plaît, fais la terre. Elle n'arrête pas de nous suivre, elle nous crie dessus pour que sa fille soit guérie. Merci, s'il te plaît, fais la terre. » Et puis... Jésus a des paroles un peu surprenantes, même que j'ai pas encore tout saisi, mais il dit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël », quand ses disciples lui disent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre » en criant. Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours ». Alors déjà, elle connaît pas Jésus, mais elle voit, elle comprend qui est Jésus. Elle a la révélation que Jésus, c'est celui qui peut la secourir. C'est son sauveur. Elle a cette révélation-là. Il lui répondit, « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Et ce qui m'a interpellée, je pense que ce passage, il mérite vraiment d'être creusé parce qu'il y a beaucoup de choses qui en ressortent. Mais un des aspects qui m'a interpellée, c'est de voir comme cette femme, elle n'était pas du tout dans la passivité. Et pourtant, le message lui était pas, et c'est ça qui m'interpelle, à la base, elle n'aurait même pas dû être concernée par le message de Jésus, c'est ce que Jésus dit. Mais elle n'est pas du tout restée à regarder, à dire « Waouh, et tout, c'est super, Jésus fait des miracles pour son peuple. » Et moi, je regarde et j'attends là. Non, elle a été cherchée, elle a reconnu Jésus comme son sauveur. Et après, elle s'est saisie de ce qu'il pouvait lui donner. Et je pense vraiment que c'est un encouragement pour nous à se saisir. Voilà, on reconnaît Jésus comme notre sauveur et on se saisit de ce que Jésus a gagné pour nous à la croix, parce qu'il y a des victoires à remporter. Et Jésus, c'était un provocateur hein, dans ce qu'il dit. C'est quand même, vous imaginez, si vous allez voir Jésus dit, moi je suis venu juste pour les brebis perdues d'Israël. Waouh, faut pas se vexer. Mais le message de Jésus, il est universel. Je ne sais pas pourquoi Jésus lui a répondu ça. Il y avait de la provocation. C'est comme si ça avait suscité encore plus de foi chez cette femme. C'est incroyable, sa réponse. Mais ce message, il est universel. Dieu ne fait pas de favoritisme. Romains 2, verset 11. Et si on ne connaît pas notre identité et qu'on ne la vit pas, on ne la vit pas parce qu'on ne la connaît pas, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller la chercher ailleurs. Et dans l'Ancien Testament, il est à de nombreuses reprises question d'idoles. Des idoles, j'allais dire physiques, mais des objets souvent. On parle le veau d'or. Il y a plein de récits dans l'Ancien Testament. Dieu parle, enfin, la Bible nous parle d'idoles qui prenaient la place de Dieu. Et c'est peut-être un mot un peu, je sais pas comment dire, vintage, qu'on n'utilise plus trop, un peu démodé. Mais les idoles, je pense qu'elles sont toujours là dans nos vies, sous d'autres formes. Et les idoles, ça peut être différentes choses. En fait, une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. C'est tout simplement ça. Donc ça peut être le travail, la réussite professionnelle. Ça peut être une idole dans nos vies. Ça peut être la recherche d'un partenaire. Ça peut être notre conjoint. Ça peut être notre rôle de parent. Ça peut être nos passions. Il y a plein de choses qui peuvent prendre la place d'idole dans nos vies à des moments. Et toutes ces choses-là, ce n'est pas des mauvais choix en elles-mêmes. Dieu nous bénit à travers un travail, à travers les enfants qu'il nous donne, un mari, les passions qu'il nous met sur le cœur. Ce n'est pas ça mon message, hein, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais si ça prend la place de Dieu, ça devient une idole. Et puis, on va être tenté de placer notre identité là-dedans. Et je vais vous raconter un peu une partie de mon témoignage. Quand j'étais adolescente, je pense que comme beaucoup d'adolescents, je luttais avec l'estime de moi-même, avec la façon dont je me voyais. Et puis j'avais envie d'être aimée, j'avais envie d'être reconnue, j'avais envie de sentir que j'avais de la valeur et j'avais envie qu'on m'admire. Et tous ces besoins-là, on les a tous, je pense, de manière parfois plus ou moins grand, plus ou moins fort selon les saisons de nos vies, les périodes par lesquelles on passe. Mais ce sont des besoins légitimes avec lesquels Dieu nous a créés, j'ai envie de dire. Mais du coup, dans cette quête-là, qui était tellement forte, je pense, quand on est ado, on se construit, il y a des choses qui se jouent de façon très forte, et je me sentais tellement malheureuse, je me disais non, mais moi j'ai envie d'être quelqu'un, j'ai envie qu'on me reconnaisse, j'ai envie qu'on m'aime, et puis cette quête-là, j'ai été la chercher dans une relation amoureuse, et donc j'ai rencontré un garçon que je trouvais extraordinaire, qui était beau, qui réussissait. Ça y est, enfin, on m'aimait, enfin, j'étais quelqu'un, j'étais la petite amie de ce garçon qui était populaire. Et puis, les premiers mois, tout était parfait. Pour moi, c'était le conte de fées. Et puis, petit à petit, c'est comme si je me disais, j'ai commencé à déchanter un peu. Pas parce que lui, il n'avait pas changé, hein, il était toujours resté le même. Mais moi, j'avais cette insatisfaction intérieure parce que je me disais, mais c'est fou, j'ai tout ce dont j'ai rêvé, donc je devrais être heureuse. Mais au fond de moi, je n'étais pas heureuse et j'avais un manque terrible. Et puis, il m'a fallu un peu plus d'un an pour m'en rendre compte. Et puis, j'ai mis un terme à cette relation. Et peu après, ce qui me frappait le plus, et je sais plus avec lui, je le partageais dernièrement, c'était que dans cette relation, finalement, je me sentais pas libre. Et c'était fou parce que j'avais clamé, ouais, je fais faire ce que je veux, et j'étais un peu rebelle vis-à-vis de mes parents et tout. Et au bout d'un an, je me sentais absolument en prison, mais sauf que c'était moi qui avais construit la prison autour de moi, donc j'étais un peu coincée. Mais c'était fou parce que c'était ça qui ressortait, c'était je me sentais vraiment pas libre. Et puis j'ai expérimenté une réconciliation avec Dieu parce que je savais que cette liberté, cette libération, c'était qu'avec Dieu que je pouvais la vivre. Et cette quête insatiable, il n'y avait que Dieu qui pouvait venir la combler dans ma relation avec Dieu. Et ça a été vraiment j'ai le mot qui vient en anglais. Turning point, un changement radical, un nouveau départ dans ma vie à ce moment-là. Quand j'avais 17 ans, où j'ai expérimenté son amour inconditionnel et cette libération, et que j'ai compris l'importance de savoir qui j'étais. Et en tant qu'Église, vous savez que c'est aussi dans la parole, on est appelé l'épouse de Jésus. on est, je pense que tous on a dû aller au moins une fois en mariage. La mariée, elle attire les regards. Le marié, il est beau, hein. T'étais très beau, mon amour. Mais la mariée, c'est quand même, à chaque fois, on dit « Ah, j'ai hâte de voir sa robe. Ah. » Alors, c'est peut-être plus les filles, je ne sais pas, les hommes. Mais quand même, la mariée, elle en jette. Elle a de l'allure, elle est belle, elle s'est fait magnifique pour ce grand jour. Elle a l'air confiante, elle a conquis le cœur de son bien-aimé. Enfin, waouh, quoi. Elle n'arrive pas toute penaude, mal habillée, pas coiffée et tout. On est d'accord. Et en tant qu'église, en tant qu'épouse de Jésus, on est appelé aussi à être belle. Alors, je parle au féminin, hein, parce que, pour une fois, c'est une image féminine. On est appelé à être une église belle, à être une église influente, victorieuse, à avoir de l'allure, à être confiante. Mais si on est honnête, c'est pas toujours ça, quand on dit église, c'est pas toujours ça à quoi on pense. C'est pas toujours ça qui peut être reflété. Et c'est pas toujours ça que l'Église a pu renvoyer comme image. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que souvent les croyants, on les trouve plus affaiblis, apeurés. Et je crois que derrière tout ça, en fait, l'ennemi, il a un but, c'est qu'on se taise et qu'on ait peur. Et puis, c'est comme si, vous voyez, il y a une marmite et puis que le couvercle soit absolument maintenu fermé. Les petits chrétiens, ils sont dans la marmite, ils font pas trop de bruit, on les entend pas parce que le couvercle est fermé. Et puis, il faut que, de temps en temps, hop, soulever un peu le couvercle pour leur dire que dehors, s'ils sortent, ils vont être morts de trouille. Et hop, on referme vite le couvercle, surtout pour pas qu'ils sortent, pour qu'ils se taisent et pour qu'ils disent rien. Et moi, ça me met en colère. Je suis en colère contre ces mensonges qui sont insinués par l'ennemi pour nous affaiblir, pour nous diminuer, parce que c'est pas ça ce à quoi Dieu nous appelle. C'est pas ça pourquoi Jésus est, la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Et on le sait, le diable, c'est le père du mensonge. Et sa stratégie numéro un, et le pouvoir qu'il a, c'est de venir vous murmurer des mensonges. Et quand il est venu dans le jardin d'Éden, quand il est venu voir Ève, si on reprend Genèse, les premiers chapitres de Genèse, il a remis en question quoi ? Son identité. En lui mentant. Il lui a dit, Genèse 3, verset 4, « Le jour où vous mangerez de l'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. » Donc, s'il dit ça, ça sous-entend qu'ils ne sont pas comme Dieu. On est d'accord ? Mais si on regarde deux chapitres plus haut, Genèse 1, verset 27, qu'est-ce qu'il est écrit ? Dieu créa les hommes à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu, au cas où on n'ait pas bien compris la première fois. Il le répète, il les créa, hommes et femmes. Donc, on est comme lui. Deux chapitres plus loin, le serpent, il arrive et dit à Ève, tu n'es pas comme Dieu. Donc voilà, vous voyez l'enjeu qu'il y a du mensonge sur l'identité. Mais on est créé à l'image de Dieu. Nous tous là, on reflète Dieu. C'est fou de se dire ça. Dans Matthieu 5, verset 13-14, Jésus, il nous dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Je suis la lumière du monde. Moi, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous pouvez le dire ? C'est Jésus hein, qui vous le dit. Donc vous l'appropriez, vous pouvez le proclamer. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est Jésus qui vous a missionné pour être la lumière du monde. C'est notre appel, c'est notre identité. Et trop souvent, on attend d'avoir tout compris pour se lancer. On dit « Ah non, mais moi, je ne suis pas assez spirituelle, je ne prie pas assez, et puis j'ai encore tel défaut et tout. » Donc non, surtout, moi, je ne peux pas du tout influencer le monde, je ne peux pas du tout être le sel de la terre, la lumière du monde, parce que je ne suis vraiment pas du tout comme il faut. Et on ne donne pas droit à l'erreur. Et c'est pareil, moi je vois, on a 3 enfants avec Mathieu, et c'est pareil avec mes filles, parfois je vais être tentée de faire ça, de les pousser à la performance, à réussir du premier coup. Mais si on revient, là mes filles, elles sont bon, elles ont entre 1 an et demi et 5 ans. Mais si je regarde quand elles ont appris à marcher, elles ne se sont pas mises debout un jour et pof, c'est parti. Elles ont essayé, elles sont tombées. Elles se sont relevées, elles ont réessayé, elles sont tombées. Elles se sont relevées, etc., etc., etc. Tous les parents, là, vous savez que ça marche comme ça. On oublie, mais ça marche comme ça. Et c'est pareil dans notre vie de foi. Et ce qui est super, c'est que si on se trompe, donc on peut il y a la persévérance, mais si il arrive aussi parfois qu'on se trompe et qu'on puisse blesser d'autres personnes, mais il y a un antidote génial, c'est la repentance, le pardon. Donc Dieu, il a prévu aussi la solution. C'est ça, c'est tout le message des évangiles, de toute façon. Et un petit exemple de ça, il y a quelques mois, on avait invité un couple à manger avec Mathieu, et puis à la fin, on a pris un temps de prière, et on a commencé à recevoir des paroles pour eux. Et moi, j'avais l'impression que j'avais reçu une parole pour la fille, et je lui ai dit, ça te parle? Elle m'a dit, pas du tout. j'ai dit, ok, c'est pas grave, parce que... moi, je suis la fille de Dieu, il m'aime, et je n'ai pas à gagner sa faveur, je n'ai pas à faire mes preuves. Et ce n'est pas grave. Et la fille, elle ne m'en a pas du tout voulu. C'était une parole qui n'était pas pour elle. C'était, je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. Et souvent, on a tellement peur de se tromper. Non, mais si je dis quelque chose, si je prie pour lui et qu'il n'est pas guéri, oh là là, ça va l'éloigner de Dieu. Ça, c'est l'ennemi hein, qui nous murmure ça à l'oreille. Je ne vais pas avoir le temps de tout dire. Qu'est-ce que je fais? Je reprêche bientôt. Mon identité, elle n'est pas dans ce que je fais. C'est Dieu qui me la donne. Et ce que je fais ne peut pas la changer. Moi, quand j'ai apporté cette prophétie, qui était du coup pas une prophétie, Dieu a pas dit t'es plus ma fille hein, parce que là t'es censé entendre ma voix, t'as pas du tout entendu ma voix, écoute, je te retire ton identité. Non, ça marche pas comme ça, heureusement. Cette identité, elle a été restaurée par Jésus à la croix. Il a racheté notre identité de fils, de fille. On est co-héritier de Christ dans Romains 8. Mais trop souvent, comme je vous disais au début, on donne notre vie à Jésus. On arrive à ce moment crucial de la croix dans nos vies. On dit « Ah, merci Jésus, tu m'as sauvé. » Et puis, on repart avec ce qu'on était venu déposer. Et puis, on continue nos vies avec tout ce qui nous entravait avant. Et c'est comme si Jésus, j'avais un peu cette image, Jésus, on arrive vers lui. On a des liens, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, pas des menottes, mais des liens avec des chaînes. Puis Jésus, il ouvre ça, puis on dit « Waouh, merci Jésus, tu m'as sauvé, c'est génial !» Puis on referme et puis on repart. Puis on a nos chaînes et nos boulets qui nous suivent, là. Mais souvent, en fait, on ne se rend pas compte, mais on peut agir comme ça, on peut être comme ça. Et c'est comme si par son sacrifice, malgré le sacrifice de Jésus, on restait prisonniers. Et puis alors, il y a un mensonge qui peut venir, on peut dire, mais oui, mais je vais être arrogant, et puis il faut que je sois humble. Et j'ai envie de dire, mais attention à la fausse humilité qui court partout, qui fourmille partout dans l'église, qui arrive si vite, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Combien de fois on va dire, c'est pas moi, je veux pas la gloire surtout, la gloire revient à Dieu. Oui, la gloire revient à Dieu, mais dire c'est pas moi, ça glorifie pas Dieu du tout. Du tout, du tout. Et on avait un ami qui disait, qui racontait ça, que quand il disait c'était super, merci pour la louange, et la personne disait non, c'est pas moi, c'était pas moi, c'est Dieu. Il avait envie de lui dire oui, t'enflamme pas, c'était pas si extraordinaire que ça non plus. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez une relation. Une connexion avec Dieu, si jamais vous tombez dans l'arrogance, et ça nous arrive tous, Saint-Esprit, il va venir vous le dire, directement ou à travers les personnes qui sont autour de vous. Mais quand le Saint-Esprit vient nous dire, il ne va pas nous condamner. Hein, la condamnation, c'est une arme du diable. Ce n'est pas une arme de l'esprit, ce n'est pas une arme que Dieu utilise. Oui, le Saint-Esprit nous convainc de péché, mais il ne nous accuse pas, il ne nous condamne pas. Quand on passe du temps dans la présence de Dieu, je ne sais pas pour vous, mais je ne ressors jamais en me sentant nul. Si jamais vous passez un temps avec Dieu, dans sa présence, à être en communion avec lui, si à la fin de ce temps, vous ressortez, vous vous sentez comme un moins que rien, c'est que certainement, il y avait un problème de connexion et c'était peut-être pas avec la bonne personne que vous communiez. Je suis un peu... Je vous provoque un petit peu exprès. Hein. Quand on passe du temps dans la présence de Jésus, mais on ressort, et quand bien même le Saint-Esprit vient nous convaincre de quelque chose qu'on a fait qui lui déplaît, mais moi, je ne ressors pas en me sentant moins que rien. Oui, je vais demander pardon. Paul nous invite à nous débarrasser de tout ce qui nous retient, de tout ce qui nous empêche d'avancer, de toutes ces fautes qui nous empêchent d'avancer. Oui, bien sûr. Mais moi, quand je passe un temps avec Jésus, j'ai envie de lui ressembler encore plus. Ça me motive. C'est quelque chose qui nous tire vers le haut. Ce n'est pas quelque chose qui va m'écraser et vraiment me rabaisser. Et j'ai entendu par rapport au fait de dire non, je veux pas recevoir de gloire, je veux que toute la gloire revienne à Dieu. Et pour illustrer ça, prenons l'exemple d'une peinture, d'un tableau de peinture. Quand vous voyez un tableau de peinture, si vous dites de la peinture, ah ben vraiment elle est pas terrible, elle est... Oh non, mais c'est rien du tout ce qu'il a fait, ce peintre, c'est vraiment pas grand-chose et tout. De dire ce genre de choses, ça ne va en rien glorifier l'artiste. Et c'est pareil pour nous, si on a des paroles comme ça et des pensées sur nous en disant « Non, mais moi je suis rien du tout, je ne vaux rien », mais en aucun cas on va glorifier Dieu, au contraire. On est créé à son image, on le reflète. On est ses représentants sur la terre. On est la lumière du monde. Je donne des cours d'anglais dans l'école où sont mes filles. Et puis je travaillais, justement, j'aime bien travailler sur l'identité. L'anglais, c'est un peu un prétexte. Et puis je les encourageais à proclamer le verset dans Psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Et je leur expliquais, donc en anglais bien sûr, ils doivent proclamer ça en anglais, et je leur expliquais l'importance de reconnaître la valeur qu'on avait en Dieu, et de louer Dieu pour ça. David l'a modelé et le faisait. Et puis il y avait des élèves qui me disaient, « Oui, mais on va se vanter. » Ça aussi, mes filles, elles me disent beaucoup ça. Oh, « Maman, elle s'est vantée. Elle, tu sais, aujourd'hui à l'école, elle s'est vantée de ça. » C'est le crime atroce. Mais non, je leur disais, non, tu ne te vantes pas, tu glorifies Dieu quand tu reconnais l'œuvre magnifique qu'il a créée en te créant toi. Au contraire. Et je crois vraiment qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence dont Paul parle dans Romains 12, verset 2. Et de nourrir notre esprit, hein, c'est l'esprit de Dieu qui communique à notre esprit, de nourrir notre esprit avec les vérités que Dieu dit de nous. Hein. Vous savez qu'en effet, on est des êtres tripartites, en trois dimensions, corps, âme, esprit. Hein, et que c'est l'esprit de Dieu qui communique à notre esprit. C'est important que ce soit notre esprit qui, si j'ose dire, prenne le contrôle sur notre être tout entier. Hein. Et dans ce renouvellement de notre intelligence, il y a un autre mensonge qui a pu être dit dans l'Église depuis très longtemps, c'est que, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais c'est qu'on est des pécheurs. Et j'avais envie de dénoncer ce mensonge aujourd'hui, au risque de choquer peut-être certains, mais je vous demande vraiment d'être ouverts. On a enseigné ce mensonge pendant des années qu'on est pécheurs. Mais moi j'ai envie de dire non, on était des pécheurs. mais on est des saints. À partir du moment où on a rencontré Jésus, on lui a donné notre vie, on n'est plus pécheurs. On est des saints. Et c'est ça notre identité. Par Jésus, nous sommes appelés saints. C'est le plus gros transfert, si je prends les termes du football, ou d'autres sports d'ailleurs, c'est le plus gros transfert qui a été réalisé à la croix par Jésus. Hein, le transfert le plus coûteux pour chacun d'entre nous. Pécheur, hop, saint. Oui, nous étions pécheurs, mais par le salut en Jésus, nous avons une nouvelle identité de saint. Mais si on se considère toujours comme pécheur, si on nous répète toujours qu'on est pécheur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va se comporter comme des pécheurs. Et ce n'est pas juste une histoire de mots que je suis en train de vous dire, hein, je ne joue pas sur les mots, mais c'est des vérités qui doivent prendre racine dans notre esprit, dans notre cœur. Il y a un verset dans Proverbes 23, verset 7, qui dit « Car il est comme les pensées de son âme. Hein, » on agit comme ce qu'on pense et selon ce qu'on croit qu'on est. Si notre mentalité n'est pas renouvelée, quelles que soient nos circonstances, on va se comporter selon ce qu'on croit qu'on est. C'est un peu compliqué, hein, ce que je dis. On va se comporter selon ce que nous croyons être. En fait, ça se passe à l'intérieur. C'est pas nos circonstances qui nous déterminent, et merci Seigneur. Et ça, on le voit souvent quand il y a des personnes qui vivent dans la précarité la plus extrême. Même si on leur donne un palace, si leur mentalité de pauvreté n'est pas éradiquée, ils vont continuer à se comporter comme tels, quand bien même ils vivraient dans un palace. Et c'est un peu pareil pour nous. Si notre mentalité de pauvreté n'est pas éradiquée, on va continuer à se comporter comme ça, quand bien même on a accès à la salle du trône, on a accès au palace. Et il y a de nombreux exemples dans la Bible de personnes que Dieu a utilisées qui, de par leurs circonstances, étaient esclaves. Si on regarde Joseph, Moïse, Daniel, ils ont été en esclavage, mais leur identité, ils la connaissaient. Ils savaient qu'ils étaient appelés à régner, à influencer les rois, les reines, et ce n'était pas leurs conditions qui déterminaient comment ils se comportaient. Et si on nous enseigne en nous disant qu'on est pécheur, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer, on va passer notre vie à essayer de ne pas faire ce que nous sommes, à essayer de ne pas faire les choses que font les pécheurs. Et du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on va se focaliser sur ce qu'on fait, on va essayer de s'améliorer, on tombe dans la performance, on tombe dans le légalisme, à essayer de corriger selon nos propres repères, hein, ce qui va pas, ce qui va de travers. Et on tombe aussi dans la condamnation. Et la condamnation, elle nous dit « tu pèches ». Donc tu es un pécheur. Mais la conviction de l'esprit nous dit tu es beaucoup trop génial pour te comporter comme ça. Ça, c'est pas toi, c'est pas ton vrai toi, ce n'est pas qui tu es vraiment. Et qui tu es appelé à être. Et je vais m'arrêter là et je voulais juste qu'on prenne un temps, je sais que Dieu vous a parlé à travers ce que j'ai pu vous partager. Et si c'est la première fois que vous avez entendu ce genre de message, c'est peut-être quelque chose qui vous choque, mais j'ai envie de vous dire, laissez-vous choquer, laissez-vous interpeller par le Saint-Esprit. Et si vous sentez que ça fait écho dans votre cœur, et que ce message de l'identité, vous ne l'aviez jamais entendu, je vous invite à vous lever. Parce qu'il y a quelque chose à recevoir. Vous avez quelque chose à recevoir. Ça, c'est pour pour vous, si c'est la première fois que vous entendez ça, vous n'avez jamais compris, jamais entendu que vous étiez appelé à être enfant de Dieu, appelé à être fils et fille de Dieu. Et puis je vais aussi vous inviter à vous lever si, à travers ce que j'ai dit, vous avez senti que vous avez réalisé que vous aviez tendance à vous dévaloriser, soit sous couvert de fausse humilité, je l'appelle la fausse humilité, ou soit voilà, parce qu'on pense, ben non, il faut que je sois humble et que ça va me préserver de l'orgueil. Ou parce que peut-être vous avez du mal à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. Et puis, je vais vous inviter à vous lever aussi si vous, à travers ce que j'ai pu vous partager, vous réalisez qu'en fait, vous vous considériez toujours comme des pécheurs. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, Dieu veut vraiment venir enraciner cette vérité que vous êtes des saints. Vous êtes des saints. Et ça va être simplement, je vais vous inviter à accepter, à recevoir ce transfert que Jésus a fait, à réaliser et à marcher, pour marcher en nouveauté de vie, comme il nous appelle à faire. Alors si vous êtes senti concerné par ces trois choses, une de ces trois choses ou les trois choses, je vous invite à vous lever maintenant et puis on va prier. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin et de recevoir la prière un peu plus en profondeur, après le culte, vous pourrez venir me voir Mathieu. On se fera un plaisir de prier pour vous, d'aller plus loin par rapport à ça. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ton cœur de Père qui nous appelle tes enfants. Merci Jésus pour ton sacrifice qui a ouvert la voie pour que nous puissions marcher libres dans notre identité de fils et de fille de Dieu. Et Seigneur, je te prie pour nous, pour tous ceux qui se sont levés. Je te prie pour les révélations que ton Saint-Esprit est en train d'opérer dans les cœurs maintenant. Et Saint-Esprit, je te prie de venir enraciner ces vérités, les vérités que nous sommes tes enfants, que nous sommes saints, que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes créés à ton image. Merci Saint-Esprit de venir maintenant appuyer ces vérités. Si vous sentez que parmi les mensonges que j'ai pu évoquer, il y a certains mensonges que vous croyez, je vous invite vraiment à renoncer en parlant à voix basse de votre bouche, à renoncer à ce mensonge que vous avez pu croire, que vous pouviez croire, que le mensonge que vous étiez pécheur, le mensonge que vous n'êtes pas digne, le mensonge que vous êtes un moins que rien, le mensonge que voilà, tout ce que j'ai pu évoquer comme mensonge. Et je vous invite vraiment à renoncer à voix haute, renoncez-y. Et puis, recevez, dites à Jésus, je reçois la vérité que je suis ton enfant, que je suis saint, que je suis créé à ton image et que je te glorifie. Seigneur, pour tes vérités. Merci Seigneur parce que tu as ouvert la voie pour qu'on marche en nouveauté de vie et on veut se saisir de ça cet après-midi et vivre cette transformation que tu nous appelles à vivre. Merci Jésus. Ceux qui prient, continuez de prier, on n'est pas pressé. Ceux qui ont des enfants, je vous invite à aller les chercher. Mais si vous, voilà, sentez-vous libre de rester là, La présence de Dieu est là et continue de travailler nos cœurs. Donc recevez ce que vous avez à recevoir.